1901 sur 90, c'est la radio des assos. Une émission proposée par l'AGLCA, Maison de la vie associative de Bourg-en-Bresse, avec l'aide précieuse de Radio B.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mois de février et particulièrement heureuse d'être sur Radio B avec vous, auditrices et auditeurs de l'autre côté du transistor et vous, invités dans ce studio.
Nous recevons aujourd'hui Bernard Chirol, président, et Marie-France Véron, secrétaire de l'association CDS01, comité départemental de spéléologie de l'Ain. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Nous sommes enchantés de vous accueillir pour cette interview qui nous plongera au cœur de la spéléologie.
1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour.
En quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre association et pouvez-vous nous dire quelles sont ses valeurs, ses objectifs ?
Alors, notre association, donc, c'est notamment un organe déconcentré, il faut le dire, de la Fédération française de spéléologie. On est donc l'interlocuteur privilégié des collectivités locales et le représentant exclusif donc, de la Fédération auprès de nos membres licenciés dans l'Ain. Et nos membres, eh bien, fédérés, il y en a à peu près 150 avec une grande majorité d'hommes, quand même un petit peu de femmes, bien sûr. Et puis, on a 13 clubs actuellement dans tout le département de l'Ain.
Quelles sont les propositions de l'association ?
Alors, les propositions de l'association sont partent de l'initiation toute première. On participe chaque année, par exemple, aux Journées nationales de la spéléo et du canyoning, qui, le premier week-end d'octobre, font découvrir les deux activités dans le département de l'Ain. On a même des collègues du Rhône qui font la même chose dans l'Ain le même week-end. On peut vraiment s'inscrire et on trouve de la place. Premier week-end d'octobre. Donc on découvre l'activité, on peut la découvrir avec les clubs, autrement toute l'année. Ces clubs sont prêts à vous prêter un petit peu de matériel pour ne pas avoir à investir 1000 euros sans savoir si on va continuer. Et puis autrement, notre activité, c'est aussi de veiller, comme vous l'a dit Marie-France, à des missions de service public au niveau de la protection de l'environnement et des eaux souterraines, signalement des pollutions. Et nous sommes les rares sportifs, parce que nous sommes aussi sportifs, nous sommes des environnementalistes, scientifiques, c'est vrai, mais aussi sportifs. Et notre ministère est celui des sports. La jeunesse et des sports, mais nous intervenons pour les secours. Nous sommes les seuls sportifs à assurer nous-mêmes nos secours. Et nous sommes reconnus par les pouvoirs publics, par le préfet, qui a une liste de personnes assermentées dans sa préfecture pour qu'on soit appelé en cas de coup dur. Heureusement, il y a très très peu d'accidents et nous sommes bien placés pour vous le dire. On n'a pas été appelés depuis des années pour quelque chose d'un peu sérieux, quoi.
Merci beaucoup. Et comment votre association fonctionne au quotidien combien, du coup, vous avez déjà dit un petit peu les bénévoles, les adhérents, mais il y a un CA, un bureau, des salariés ?
Oui, on a bien sûr un conseil d'administration donc, qui est composé d'un président actuellement, d'une secrétaire, donc moi-même, et puis donc un trésorier adjoint, auxquels se joignent 5 autres membres du conseil d'administration. Et puis, on a aussi des personnes là qui sont bien volontaires, qui ne sont pas élues au CA, mais qui sont ressources et qui nous aident bien. Puisqu'après, il faut se répartir pas mal de tâches en commission. On va dire, on a des responsables de commission. Donc, on en a quand même 8. Je peux vous les nommer un petit peu rapidement. Il y a l'enseignement, donc tout ce qui va concerner les stages pour apprendre les techniques et autres. Le secours, qui est une grosse affaire aussi. La communication et publication, puisqu'on a un joli magazine, là, je vous l'ai sous les yeux. Tant pis pour les auditeurs, ils ne le voient pas.
208
voilà,
pages.
Voilà, Spéléo01, qui vient de sortir. On a l'environnement et le scientifique, qui va encore bien nous occuper. Une commission inventaire, donc là, on recense un petit peu toutes les cavités qui existent. Enfin, voilà, je vous la résume. Hein. Manifestation et développement, c'est un petit peu ce que Bernard a dit tout à l'heure. Tous les événements qu'on crée, hein, et bon, des sorties entre clubs, mais ces fameuses journées aussi de la spéléo. La gestion des sites de pratique, ça c'est énorme aussi, parce qu'il faut quand même bien suivre l'affaire. Il y a des cavités conventionnées aussi, enfin voilà, c'est toute une histoire. Et puis la dernière toute nouvelle, c'est notre commission, la huitième, c'est recherche et innovation technique. Donc là, on a des belles surprises à venir encore.
Oui, nous l'avons créée pour une invention qui permet de faire passer des images vidéo depuis le fond des grottes. On avait la possibilité jusqu'à maintenant de communiquer avec le fond des grottes sans fil, d'ailleurs, avec des antennes, avec des ondes spéciales qui passent à travers plusieurs centaines de mètres de roches. Et là, nous allons pouvoir maintenant passer à la vidéo. Donc, ça rajoutera des images, ce qui sera très intéressant pour suivre les événements qui se passent sous la Terre. Ça peut être des événements, effectivement, d'intervention, mais ça peut être aussi d'autres choses. Notre activité est très, très variée. C'est pour ça qu'elle plaît au public. C'est que chacun peut y trouver sa spécialité.
Et pouvez-vous nous parler un peu de vos missions et de vos postes? Depuis combien de temps êtes-vous dans l'association et comment en êtes-vous arrivé là?
Alors, ça fait bien trop longtemps que je suis au CDS, mais c'est quand même un plaisir quand même, je tiens à le dire.
Nous cherchons cinq femmes à vice.
Mais voilà, c'est là où je dis trop longtemps.
Pour le conseil d'administration.
Voilà, on a... Oui, cette contrainte quelque part quand même d'avoir cette parité qui nous fait pas nous relayer beaucoup, notamment les femmes. Et puis même, j'allais dire, même les hommes, hein, on n'est pas non plus
Nous cherchons des jeunes, voilà. Effectivement.
Voilà, des jeunes. Mais bon, voilà, on s'en sort quand même. Mais bon, voilà, ça fait, moi, je dirais, au moins une bonne dizaine d'années.
Moi, j'ai déjà été président du comité dans les années 90. Et là, j'ai accepté de reprendre la gestion du comité à la suite du départ d'un jeune qui était très efficace, mais qui a dû partir sur Paris travailler. Donc, il est resté au CA, mais il n'est plus président et il est sur Paris. Alors moi, les missions que je peux vous donner, on en a, Marie-France les a citées. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu à m'atteler à l'inventaire des cavités du département de l'Ain dès les années 80. Et donc, c'est ce document qui est sorti en 85 qui a été à la base de la mise en informatique de ces données par notre ami Bertrand Valton, qui les a saisies. Et à la suite de cette saisie, eh bien, nous avons eu une étape suivante qui est carrément une base de données avec un système qu'on appelle BaseKarst. Et là, on a notre ami Claude Alliot, Yvan Robin, qui sont très, très mordus de cet aspect de notre activité et qui, avec une équipe, vont pointer les entrées de grottes et essayent de voir s'il n'y en a pas d'autres à côté, de façon à ce que l'inventaire soit le plus précis possible. On vérifie la bibliographie, on vérifie les mensurations. On donne une photo de l'entrée de la cavité pour être sûr de bien la reconnaître sur la base de données. Et tout cela est peut-être bien utile, effectivement. C'est une version moderne du travail que j'ai accompli il y a bien des années avec mon ami Arthur Pélisson.
Merci beaucoup. Et maintenant, du coup, on va faire une petite pause avec un interlude musical choisi par nos invités. Nous sommes de retour dans 1901 sur 90 avec l'association CDS01, Comité départemental de spéléologie de l'Ain.
Un petit mot sur la musique que l'on vient d'entendre.
Alors cette musique de Mendelssohn, c'est une ouverture consacrée à la grotte de Fingal's Cave en anglais. Elle se trouve dans les Hébrides, à l'ouest de l'Écosse. Une petite île qu'on atteint lorsqu'il y a un temps correct, sinon c'est assez difficile de poser le pied dessus. Et récemment, un collègue historien d'Italie lui a consacré carrément tout un livre pour elle, pour raconter son histoire et toutes les gravures qui ont été diffusées à partir, je dirais, du 18-19e siècle sur cette grotte qui était une curiosité touristique pour les gens fortunés. Les aristocrates allaient voir la grotte de Fingal's Cave car elle était fort belle dans un paysage romantique, agité.
Merci. On vous a également demandé de venir avec un objet qui représenterait un peu l'association. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire pourquoi celui-là ?
Mais avec plaisir. Cet objet, c'est un casque de spéléologie. Alors ce casque, il prend le relais de différentes coiffes que nous avions dans les périodes historiques de la spéléologie, c'est-à-dire on peut carrément dire que la spéléologie mondiale a vraiment pris son essor au milieu du 18e siècle et il a fallu attendre le 19e pour que les sociétés s'organisent vraiment. Et là, les coiffes que l'on utilisait à cette époque, pour M. Martel, par exemple, c'était un chapeau de feutre, un peu costaud, avec une bougie posée dessus, éventuellement, pour certains. Mais bon, on avait aussi quand même des petites lanternes que l'on pouvait véhiculer avec soi. Et après, il y aura le relais de la lampe à carbure qui est apparue autour de 1900, qui a procuré une lumière assez sympathique sous terre. Puis on a eu les batteries qui ont suivi aussi. L'électricité, bien sûr, est utilisée depuis le 19e siècle.
Et on va parler un petit peu de vos actualités. Quelles sont vos prochaines actus, les dates, les projets à venir ?
En fait, c'est, je crois, un petit peu tout ce qu'on vient de dire. On le poursuit régulièrement, tout ce travail autour de toutes les commissions. Et puis, effectivement, ce nouveau moyen de communication souterrain, qui est, on l'appelle, on le dit le nom. Allez, nounours. Peut-être pas expliquer pourquoi, parce que
on
ça
peut vite l'expliquer.
Peu
c'est parce que les anciens systèmes de communication à travers des centaines de mètres de roches qui permettaient une communication audio, eh bien, s'appelaient Nicolas. Ensuite, il y a eu Pimprenelle. Et donc, maintenant, c'est Nounours.
Logique. Et puis oui, cette fameuse revue Spéléo01, là, on vient de la publier. Mais en fait, il faut sans arrêt alimenter. Donc, c'est ce que je tenais un petit peu à dire aussi, c'est que le Spéléo, il écrit beaucoup, mine de rien. Il partage pas mal. Et il y a beaucoup de revues qui existent. Bon, là, c'est au niveau du département. Mais dans les clubs, il y a aussi plein de petites gazettes.
Au niveau national, on est assez riche, oui.
Ouais. Donc, les Spéléos aiment écrire quand même, aiment partager. Leurs explorations, leurs sorties.
Alors celui-ci, il est particulièrement copieux, ce Spéléo01 numéro 28, parce que ça faisait 6 ans qu'il n'y en avait pas eu. Donc là, c'est vrai qu'on a été un petit peu fainéant pendant quelques années, mais en réalité, c'était uniquement sur le papier. Les gens travaillaient et la preuve, c'est que leurs résultats représentent plus de 200 pages de belles photos et de beaux articles qui sont très variés. C'est là où on revient sur les spécialités de la spéléologie. Vous pouvez faire de la photo. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres de photos qui existent maintenant. Les collègues français et étrangers publient carrément des livres de photos qui ont du succès. Et autrement, ben, on fait de l'archéologie. Il faut savoir que l'activité est toujours en lien, comme autrefois, avec l'archéologie, car on peut faire des découvertes dans les grottes. Vous le savez bien, nos origines sont dans les grottes. Et ma foi, cette spécialité mène aux cavernes. Les archéologues sont souvent spéléologues un petit peu et l'inverse aussi. Autrement, bien, on peut faire de la biologie. Vous avez des articles de biologie avec des petites bêtes qui vivent sous la terre, des petits insectes et autres crustacés, pourquoi pas, par exemple, des petites crevettes dans les cours d'eau souterrains. On a de la paléontologie qui est proche de l'archéologie et proche de la zoologie aussi, bien sûr. C'est la recherche des squelettes anciens qui sont piégés dans les orifices, tombés dans des gouffres, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme spécialité, Marie-France ?
La topographie.
La topographie, oui, c'est très important. De toute façon, une vraie exploration, ça se prouve par une belle topographie. Voilà. On refuse d'ailleurs même de découvrir, nous, dans notre club, j'appartiens à celui d'Hauteville, si on ne fait pas la topographie. On s'arrête, quitte à rater le premier jour de faire un kilomètre de première qui n'a jamais été vu par l'homme. On s'arrête parce qu'on fait 200-300 mètres de topo et on revient une fois suivante pour continuer. Voilà.
C'est l'avantage de la spéléologie, c'est que c'est à la fois un sport et une science. Enfin, je trouve que c'est pas mal quand même.
Et ça permet donc de cartographier notre sous-sol, ce qui est très important pour les risques naturels, par exemple. Mon inventaire que j'avais fait pour le comité en 85, il a d'abord été acheté par le service de géologie français. Le BRGM a acheté notre inventaire à une époque pour avoir les données. Alors ça, c'était l'ébauche, c'était un petit squelette de l'inventaire qui maintenant est à la disposition, non pas du grand public, mais à la disposition de la communauté spéléologique. Nous avons accès à vraiment une base de données très fournie maintenant, mais on ne peut pas donner tout ça directement au grand public, ce n'est pas possible. Et on veut que ces données restent quand même « protégées », entre guillemets aussi.
Et si on parlait un peu d'avenir, du coup, quels sont un peu les enjeux pour votre association ? On vous souhaite quoi pour la suite, finalement ?
Je crois déjà de conserver nos agréments, sport, donc environnement, éducation nationale, sécurité civile. On est quand même bien occupé avec tout ça. Donc
La fédération a récupéré récemment l'activité Canyon. Elle a la délégation, en quelque sorte. Et donc, les spéléos sont très liés au canyonisme.
Comme il existe aussi les spéléo-plongeurs.
Oui, la plongée souterraine. Et d'ailleurs, elle est très, très importante, cette plongée, pour nous permettre d'aller au-delà, de faire des découvertes qui nous échapperaient si on n'avait pas ces spécialistes.
Voilà, donc après, c'est de découvrir, je crois. Après, voilà, il faut... Tous à notre petit niveau ou grand niveau de club.
Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est des découvertes. Soit des découvertes purement spéléo, soit des découvertes, pourquoi pas, paléonto-archéo. Ça peut arriver fortuitement, puisque je rappelle que les fouilles sous la terre sont interdites par une loi de 1940. On ne peut pas fouiller sans autorisation. Seulement, les spéléos, il leur arrive de tomber par hasard sur des choses qu'ils vont signaler. Donc, ce sont des acteurs non seulement de l'environnement, de la protection, mais ce sont des acteurs de la science. Et les spéléos découvrent aussi des peintures préhistoriques, parfois. Je pense à mon ami Jean-Marie Chauvet, qui, avec ses deux copains et sa copine, sont tombés sur les belles peintures de la grotte Chauvet.
Alors, on n'a pas de Chauvet dans l'Ain, de grotte Chauvet, du moins.
Pour le moment, ça pourrait venir, mais on a certainement des problèmes climatiques et géologiques dans le passé qui nous ont un peu privés de cette possibilité.
Et puis, on a plus de 3800 cavités dans l'Ain.
Alors, on a 3700 phénomènes, oui.
Voilà.
Mais dans ces phénomènes, il faut savoir qu'il n'y a que 5% qui sont vraiment dignes d'une visite approfondie, d'une visite de club. Par contre, la visite approfondie, si, toute le mérite. Et parmi ces 3700, un jour, il y a un individu ou une individu qui va aller faire un petit tour, qui va enlever un caillou, un petit bouchon, qui va sentir un courant d'air et qui va trouver, cette fois-ci, un kilomètre de nouveau. Et cette petite cavité deviendra une grande cavité. C'est ça les rêves des spéléos.
Alors, nous, on peut vous poser des questions. À votre avis, le plus long réseau de l'Ain, combien il mesure ?
100 ou plus ?
Non.
Est-ce que c'est 60 ? Un Lyon-Bourg ?
Ça existe en France, les grottes de plus de 100 km, mais elles sont très très rares. Et il existe même un record du monde aux États-Unis avec à peu près 600 km.
Ah oui.
Voilà, la grotte de Mammoth Cave. Et dans l'Ain,
Là, vous avez fait rêver les spéléos, 60 km. C'est 23,1.
Voilà, on est à 23 km dans la Cluse des Hôpitaux, cette jolie gorge, vous savez, qui va de Ambérieu jusqu'à Belley. Un magnifique canyon qui mesure plus de 300 mètres de haut. Et bien, dans ce site, qui mériterait d'être classé par l'UNESCO, ça pourrait venir d'ailleurs dans l'avenir, eh bien, il y a un réseau de plus de 23 km. C'est la grotte de la Burbanche, on va dire, le réseau Falconet-Sangle.
Oui, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident pour des non-spéléos, je pense, de chiffrer. Après, en temps, il y en a qui avancent plus ou moins vite, mais je pense que si on fait tout le réseau, Bernard, on y passe largement la journée.
De toute façon, faire tout le réseau, comme dit Marie-France, c'est possible, par exemple, pour une cavité comme la grotte de Jujurieux, qui est très, très célèbre. Cette grotte de Jujurieux ne fait que 2,5 km. Là, si on force un peu, on peut faire tout le réseau en connaissant bien dans une journée. Par contre, la grotte de la Burbanche, elle, c'est absolument impossible de visiter, bien sûr, les 23 km. On y va uniquement pour faire une partie, pour continuer dans une branche, car c'est un réseau qui possède plusieurs rivières souterraines, ce qui est très, très important et très intéressant. Et il y a même plusieurs étages, on peut dire, puisque les cavités sont étagées en fonction de leur évolution géologique. Et là, ça nous amène à un autre aspect que je ne sais pas finalement assez développé peut-être, c'est l'aspect karstologie. La karstologie, c'est la connaissance du fonctionnement de ces massifs calcaires et de toutes les grottes qui s'y sont formées, les gouffres et l'évolution des paysages aussi extérieurs. Voilà, la karstologie nous occupe beaucoup. Il y a des karstologues professionnels actuellement dans le monde et c'est une direction que les jeunes peuvent aussi vouloir prendre pour comprendre ces paysages.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. C'est l'heure de mettre un point final à notre interview. Bernard Chirol, Marie-France Véron, merci d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir fait
à votre service. Nous vous attendons pour découvrir le monde souterrain. Nous sommes disponibles.
Merci de nous avoir fait sortir de nos petits trous.
Merci.
1901 sur 90, le mot de l'invité du jour.
Et maintenant, on accueille notre invité de marque, Marine Adam, chargée de points d'appui à la vie associative et de l'ESS à l'AGLCA. Bonjour.
Bonjour.
Marine, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter en quoi consiste ton poste, toutes ces missions-là?
Oui, complètement. Du coup, je suis arrivée en octobre de l'année passée à la GLCA et du coup, je travaille sur 3 missions différentes, globalement pour accompagner la vie associative et l'économie sociale et solidaire. Du coup, il y a la première mission qui est plus sur le pôle économie sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment faire découvrir, notamment à la jeunesse, ce qu'est l'économie sociale et solidaire, notamment par des projets comme la coopérative jeunesse de service qu'on monte depuis 4 ans les étés à Bourg. Mais c'est aussi faire découvrir dans les universités ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a ce premier point sur l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi le projet plus de DLA, dispositif local d'accompagnement, où là, du coup, on va accompagner des associations qui sont employeuses. On va essayer de les soutenir pour pérenniser leur emploi. Du coup, pareil, des structures de l'économie sociale et solidaire. Et la dernière mission, c'est le point d'appui à la vie associative.
Et c'est quoi le point d'appui à la vie associative? C'est pour qui? Comment ça se passe?
Alors en fait, il va y avoir des porteurs de projets ou des associations qui vont nous contacter parce qu'ils ont besoin de pouvoir avoir un appui, des informations, de pouvoir être accompagnés soit dans leur portage. Donc par exemple, il va y avoir quelqu'un qui va m'appeler pour créer un projet d'auto-école associative. Eh bien, je vais l'aider à structurer son idée. Et puis ensuite, à pouvoir modéliser son projet. On peut accompagner vraiment sur des points très juridiques, l'accompagnement au statut, mais aussi pouvoir leur faire poser des bonnes questions pour réfléchir un peu à leur modèle. On va pouvoir accompagner les associations tout au long de leur projet. Donc, soit la création, jusque même à la dissolution, on peut les accompagner. Et en fait, c'est vraiment un accompagnement qui est gratuit. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter s'il y a des questionnements qui se posent dans les associations, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur les financements, vraiment sur toutes les questions que peuvent se poser le monde associatif de manière générale.
Et si on est dirigeant, du coup, on vous contacte comment?
Alors, du coup, vous pouvez nous contacter soit par téléphone directement à la MCC, ou alors vous nous contactez par mail. Donc, je peux vous donner le mail directement. Alors du coup, c'est point-appui@aglca.asso.fr.
Et est-ce que du coup, on a cet accompagnement qui peut être du coup long ou court, si j'ai bien compris, ou ça peut être ponctuel même, ou sur plusieurs années. Est-ce qu'il y a d'autres propositions un peu qui sont liées un peu à toute cette aide, accompagnement à la vie associative?
La GLCA, elle essaye de pouvoir vraiment accompagner les associations de manière assez globale, donc soit par ces accompagnements individuels, mais il y a aussi des formations qui sont proposées, du coup, sur tout le territoire de l'Ain. Je ne l'ai pas précisé, mais du coup, on agit sur tout le territoire de l'Ain. Donc, il y a des personnes qui viennent de Grand Bourg-Aglo, mais globalement aussi, on peut avoir des demandes des associations ou des porteurs de projets un peu partout sur le territoire. Et du coup, on va aussi pouvoir apporter des initiations sous des formes de formation. Donc là, il va y avoir 5 modules qui vont comprendre quelques séances chacune pour vraiment comprendre le fonctionnement de base d'une association. Donc que ce soit la comptabilité, la communication, devenir employeur, vraiment toutes ces thématiques peuvent être abordées en formation. Ou du coup, c'est aussi l'occasion de pouvoir être entre associations, pouvoir découvrir que nos problématiques sont similaires, voir un peu comment aussi répondre chacun chacune. Donc voilà, c'est des choses aussi assez participatives qu'on fait principalement à la MCC. Du coup, la MCC, c'est la Maison Citoyenne et de la Culture, qui est du coup derrière le champ de foire à la Bourg-en-Bresse. Mais on va aussi faire d'autres formations sur le territoire. Par exemple, la prochaine que j'anime, ça se passera au Lab 01 à Ambérieu. Pour s'il y a des auditeurs qui nous écoutent d'un peu plus loin que Bourg, qui aura lieu le 21 mars sur ce qu'est le projet associatif et comment on fait un projet associatif.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, Marine. Donc, si vous êtes dirigeant d'une association ou porteur de projet et que vous avez des questions ou que vous avez besoin de savoir par où aller, n'hésitez pas à contacter le point d'appui à la vie associative de la GLCA.
1901 sur 90, sur Radio B, l'agenda de la Maison des Assos.
Le DLA de l'Ain, dispositif local d'accompagnement dont on vient de parler, propose un nouvel accompagnement pour les associations employeuses qui s'intitule « Fédérer ses équipes autour du projet associatif ». Vous souhaitez faire évoluer le projet de votre structure et donner du sens à vos actions, nous pouvons vous aider. Nous travaillerons autour de plusieurs problématiques communes aux associations de tout secteur d'activité en collectif ou de façon individualisée. On peut parler de liens au sein de chaque structure en rapport à son identité propre, faire renaître le projet associatif comme outil ou bien encore la structuration. Cet accompagnement collectif est gratuit. Le lancement est prévu le 21 mars en visio. Également dans l'actualité, la Fabrique des Possibles, le collectif d'acteurs engagés auprès des entrepreneurs de l'Ain, vous propose un nouveau rendez-vous. C'est un sprint création. Donc si vous avez une idée, un projet de création sur le territoire, vous pouvez venir participer à une journée pour booster votre projet, accompagné par des coachs experts de l'accompagnement et de la création d'entreprises. Vous bénéficiez d'ateliers en individuel et en collectif, en toute convivialité. Et à l'issue, on vous offre l'occasion de présenter votre projet devant un jury de partenaires. Donc rendez-vous le mercredi 8 mars de 9h à 18h à la MCC de Bourg-en-Bresse. C'est gratuit, sur inscription préalable. Également dans l'actu, un nouveau point ASSO, spécial fiscalité des associations pour les dirigeants et bénévoles associatifs avec l'intervention d'une experte, Carole Perret, inspectrice des finances publiques de la DDFIP de l'Ain. Donc rendez-vous le mardi 21 mars à 11h30 à la MCC de Bourg-en-Bresse. A noter aussi qu'il reste des places pour les prochaines formations bénévoles de l'AGLCA. Organisez une assemblée générale conviviale le 2 mars à 19h pour connaître et respecter le cadre réglementaire et animer une assemblée générale dynamique et participative. Et également pour la formation, organisez une manifestation exceptionnelle qui aura lieu le 14 mars à 19h à la MCC. Pour connaître le cadre réglementaire des manifestations exceptionnelles, savoir construire, gérer et évaluer son événement et acquérir des outils de gestion d'un événement. Ces formations sont gratuites sur inscription et vous pouvez vous inscrire en ligne dès maintenant. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos informations en ligne sur aglca.asso.fr et nous suivre également sur les réseaux sociaux.
Merci, chères auditrices et auditeurs, et de nous avoir écoutés. On vous souhaite à toutes et tous une belle journée et on vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt.
/1901, la radio des assos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain sur 90 FM, les ondes de Radio B, ou en podcast sur le site internet radio-b.fr à la rubrique 1901/90 où vous retrouverez toutes nos infos. À bientôt.